Par rapport à cette question que tu posais tout à l'heure sur la frontière entre artisanat et bijoux contemporains, donc expression artistique comme médium artistique, cette question du matériau est intéressante aussi parce que je pense que nous tous, quand on prend un matériau, on réfléchit à comment il fonctionne, c'est-à-dire comme signe parce qu'il sera porté sur le corps, et comment il sert en fait une forme de démarche, de propos, de... par exemple, Cécile, dans ton travail, tu utilises des matériaux précieux parce que tu parles de l'histoire du bijou. Enfin, je te laisse.
c'est hyper intéressant. Oui.
Tu parles de l'histoire. Tu t'inscris complètement dans l'histoire du bijou pour réinterpréter sa signification et son de manière ironique, provocatrice. Et donc, tu utilises ces matériaux précieux justement pour te rattacher un peu à cette histoire du bijou et en faire un pas de côté un peu critique ou voire ironique ou
j'aimerais bien.
Justement, Cécile, moi ça m'intéresse. Je n'ai pas eu la chance de découvrir vos travaux. Ce fameux pas de côté que tu as décidé donc de faire en utilisant donc ces matières précieuses, cette ironie en tous les cas qui se dégage de ton travail visiblement. Quelle est ta réflexion toi justement dans ce choix précis?
Alors moi je m'intéresse en fait aux typologies classiques connues de tous. Comme par exemple le médaillon, la chevalière, le collier de perles, où en fait c'est des bijoux qui ont traversé le temps et les siècles et qui sont toujours représentés d'une manière différente aussi à travers les peintures, ou encore maintenant la chevalière, avant c'était plus un signe de position importante socialement, et c'est vrai que la chevalière elle a fait toujours partie en fait d'un objet d'un certain clan. Ce clan là maintenant est différent, c'est devenu la mafia à un moment donné, maintenant c'est les rappeurs qui utilisent la chevalière comme un signe, et c'est ce bijou ancestralement important de par sa masse et son histoire, devenu un accessoire aussi de mode. Donc qu'est-ce que le bijou, qu'est-ce que l'accessoire, on se pose toujours ces questions là c'est vrai que moi je questionne ça, et après je les réinterprète avec ma vision, et notamment le médaillon. C'est vrai que le médaillon, c'est l'objet de l'intime, c'est l'objet du précieux, l'objet du souvenir. Et en fait, souvent, ça renferme un nom, ça renferme des précieux restes d'une personne défunte, ou encore une date importante. Et moi, je les ai re-questionnés avec quelque chose qui n'est pas forcément...
Socialement correct.
Voilà, pas forcément beau, parce qu'aussi, le bijou, ça pose la question du qu'est-ce qui est beau ou non. Et donc, je vous laisse aller voir mes portraits du général Glavio.
Qu'est-ce que tu souhaitais exprimer? Puisque le fait de cracher, par exemple, est un geste peu commun dans notre société occidentale, car cela est très mal vu, alors que d'autres sociétés crachent très régulièrement. Toi, de ton côté, comment tu t'es approprié ce fameux regard du crachat?
En fait, je me suis posé la question de plus qu'est-ce qui pouvait vraiment être unique à chacun. Et c'est vrai que j'expérimentais beaucoup avec de la cire. Comment garder? Parce qu'il y a cette technique traditionnelle en bijoux qui est la fonte à la cire perdue. Je ne sais pas si vous visualisez, mais en fait, c'est un peu... C'est par exemple, un bijou qui est souvent massif. On va venir d'abord, dans un premier temps, le sculpter dans de la cire, ensuite l'envoyer chez un fondeur qui va faire un moule. Et en fait, la cire va donc s'échapper du moule quand on met le moule au four. Et ensuite, on va venir verser directement du métal fondu dans le moule. Ça va créer cette pièce qu'on a sculptée en cire, mais en métal. Et moi, c'est vrai que j'avais envie d'expérimenter cette technique-là et un petit peu de l'apprendre d'une manière différente, donc de re-questionner aussi le processus technique et créatif. Et c'est en essayant en fait de marquer la cire à l'aide d'empreintes en fait de chacun que j'ai commencé à cracher et dedans, et ça a été super drôle parce que ça a créé carrément des impacts différents et des motifs qui en fait renversés dans un autre matériau deviennent carrément d'une surface lunaire. Et en fait ça pose toutes ces questions de qu'est-ce que le crachat. C'est vrai, par exemple, c'est marrant parce que moi quand je me balade dans la rue et que je vois à un moment donné plein de crachats, ça veut dire que ça montre aussi une présence de quelqu'un qui a été à un moment donné là, et on marque son territoire. Mais la salive aussi, c'est le Christ qui a guéri je ne sais pas quel apôtre de la cécité, par exemple. Il y a aussi la salive, la bave, des ébats amoureux. Enfin, il y a quelque chose de si très beau, très sensuel et très, très intime que je trouvais hyper intéressant. Et le fait de le renverser, c'était aussi, je pense, assez subtil, parce que les gens ne voient pas que ce sont des crachats. et trouvent ça super beau et précieux. Et quand ils le savent, bah, tout de suite, ça change. Et donc, ça aussi, je pose la question de, bah, à un moment donné, qu'est-ce qui est portable, important, table, alors que c'est quand même, ça reste un petit objet qui est porté autour du cou. Et là, c'était très drôle parce que j'ai fait une intervention hier et il y a eu un couple qui l'a fait à deux, qui a craché à deux dans de la cire. Et je trouve ça super beau, en fait. Voilà, en fait, même le processus créatif devient un rituel un peu. Et voilà, je questionne aussi l'acte de créer, voilà, aussi.
Agacé par l'insecte au ventre crevant d'œufs, décoloré, suintant, le crachat comateux sur le trottoir, enfin, des bons doigts. Tandis qu'agonisant sous des pieds indistincts, à l'aise, enfin chez lui, il me dit l'air hautain, je suis la con.